Le sport. Tous les sports. CFM.
Lundi sport, bonjour. Le grand studio virtuel de CFM s'étend sur tout le Nord Midi-Pyrénées avec dans les studios de CFM Rhodes, David Dumont, David Fabier et Jean-Claude Vigroux. Bonjour messieurs.
Bonsoir.
Salut Rémi, bonjour,
bonsoir
à tous.
Tout le monde.
Et dans les studios de CFM Caylus, Jean-Claude Desfarges, salut.
Salut, salut Rémi, salut à tous.
Ici, dans les studios de CFM Montauban au 5 boulevard Garrison, Jennings Darcourt, salut.
Salut Rémi, salut tout le monde.
Et puis Aurélien qui est aux manettes. On s'intéresse aujourd'hui à une association nationale qui s'appelle les Colosses aux pieds d'argile, qui a été créée par un sportif de haut niveau, rugbyman, qui s'appelle Sébastien Bouey, et qui a été victime dans son enfance d'actes pédophiles. Il a créé cette association, les Colosses aux pieds d'argile, pour faire de la prévention et de la sensibilisation au risque pédophile dans le milieu sportif. On l'aura au téléphone dans la deuxième partie de cette émission. Avant ça, on s'intéressera à un tournoi, le tournoi Charles Romulus, c'est un tournoi qui a été remporté par le Montauban Football Club à Rhodes. Voilà, donc.
Eh ouais.
Ça, ce sera notre premier sujet. Et puis, comme d'habitude, eh bien, on fait le tour de la Pro D2, du Top 14, de l'Handisport, et tout ça en une heure et demie avec de la bonne humeur.
En une heure?
Ah oui? Ah ouais, d'accord. Bon, d'accord. Alors, on fera qu'une heure aujourd'hui. Non, mais on fait toujours qu'une heure.
Eh oui.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Rémi, ressaisis-toi.
Bon,
Ah ben, déjà.
On peut rallonger si tu veux, ça nous dérange pas.
Qui c'est qui commence? Une synthèse du foot, s'il vous plaît, Jean-Claude.
Eh bien, Marseille, toujours leader en Ligue 1. Les Marseillais se sont défaits des Nantais, puisqu'au Stade Vélodrome, Marseille a remporté la victoire par 2-0. L'équipe de Rennes a fait une bonne opération, elle, puisqu'elle elle a battu Monaco. Les gars du Rocher se sont plantés en Bretagne. Rennes a remporté la victoire 2-0. Le Paris Saint-Germain, lui, a eu beaucoup de mal à se défaire de Nice. Ils avaient encore dans les jambes certainement le match de mardi en Coupe d'Europe contre l'Ajax d'Amsterdam, pardon. Mais hier soir, l'événement, c'était le derby du Forest qui opposait Lyon à Saint-Étienne. Victoire de Saint-Étienne, victoire sans bavure, 3-0. Beaucoup de monde dans le stade Geoffroy Guichard. Un beau match de football entre les deux équipes. Un match correct, viril, comme dirait Spanghero, comme il aurait dit à son époque. Viril, mais correct, bien arbitré par Monsieur Turpin. Et les Stéphanois se sont défaits des Lyonnais. Ça faisait 24 ans qu'ils n'avaient pu battre dans ce derby l'équipe de Lyon. Mais ça a été fait hier soir. Les dirigeants stéphanois ainsi que les joueurs étaient très satisfaits de ce résultat. Bordeaux, quant à lui, qui se retrouve à la quatrième place, s'est défait difficilement de Lille. Lille, ça ne marche plus à Lille. René Girard a du souci à se faire et doit se gratter les quatre derniers cheveux qui lui restent sur la tête, puisque Bordeaux a remporté la victoire à Bordeaux par 1-0. Donc les Marseillais sont toujours en tête devant les Parisiens du PSG. Troisième Lyon, qui malgré sa défaite reste dans le trio de tête. Quatrième Bordeaux et cinquième Saint-Étienne.
Et il y a quelques mois, je vous l'avais dit que René Girard, c'était un entraîneur vraiment très moyen. Et vous avez eu du mal à me croire là-bas à Rhodes. Vous voyez le résultat.
Il n'a pas changé, que ce soit à Rhodes ou à Baraqueville. Je pense que les gens ne te croient pas trop non plus.
Parce non mais que... rendons à Jennings qui est à Jennings. Je me souviens très très bien qu'il avait parlé de Girard en s'en plaignant. Et personnellement, il me semble que je l'avais repris. Et bah, finalement, oui, c'est vrai que Lille, c'est pas terrible cette saison.
Bah oui, mais enfin, on fait avec les joueurs qu'on a. C'est pas l'entraîneur qui joue. René Girard a été entraîneur des jeunes de l'équipe de France de football, les Bleuets, qu'on appelle. Eh bien, il avait des résultats. L'an dernier, il avait des résultats. Quand il était à Montpellier, il a été champion de France. C'est pas une pipe, hein. Il connaît le métier d'entraîneur.
Ouais. Mais si tu demandes à des supporters lillois, je ne sais pas si tu en as dans ton entourage, je pense qu'ils ne
diront pas la même chose. Ça fait un peu loin. Ah. Ça fait un peu loin d'ici, c'est difficile de les voir.
Oui, je confirme.
Il y a une grosse actu du côté du Ballon d'Or, non? Il n'y a pas les trois finalistes du Ballon d'Or qui ont été choisis, là?
Les nominés, oui.
Les nominés sont
Ronaldo, Messi et Müller du Bayern de Munich.
Müller ou Neuer?
J'ai pas suivi, donc.
J'ai cru avoir compris.
Eh ben, on va aller vérifier.
Mais je vous certifie pas.
Bon, en tout cas, ça a pas l'air de vous passionner, quoi. Ça, c'est pas.
Non, c'est pas. Le Ballon d'Or, non, c'est un sketch.
Le Ballon d'Or, c'est vrai.
Le problème qu'il y a, c'est que, on connaît un peu la finale. La finale, ça va se jouer entre Ronaldo et Messi. Voilà. Et Müller, si c'est Müller.
Neuer,
malheureusement, ça va pas passer. Ouais, ben, malheureusement. Les gardiens n'ont jamais remporté le Ballon d'Or.
Si, il y a Chine, il y a 30 ans.
Au plus, ouais.
Ouais, meuf.
Mais vous savez, le Ballon d'Or, pour nous, c'est un peu comme le Festival de Cannes pour le cinéma. Hein. C'est fait pour les people, et puis voilà, quoi. Hein.
Ouais, et puis il n'y a pas de joueurs français. Du coup, cette année, on va peut-être un peu moins parler chez nous. Là, on passait, il y avait Ribéry, il y avait le suspense, hein. Là, bon.
Cette année, ça aurait été compliqué d'en mettre un français, quand même.
Hein. Ouais.
Mais moi, je pensais qu'ils allaient mettre Zlatan. Pourquoi c'est pas Zlatan, le Ballon d'Or?
Zlatan n'est pas français, il est suédois.
Non, mais le Ballon d'Or, c'est international.
Oui.
Non, parce que ça a beau être le meilleur joueur français, quand t'es le meilleur joueur du championnat de France, t'es loin d'être le meilleur joueur du monde.
Ah, d'accord.
Faut bien dire les choses.
Ah, d'accord.
Et puis, il est pas marseillais.
Heureusement, oh. Mais on lâche pas les torchons les serviettes, hein.
Le jour où on verra un marseillais quand même au Ballon d'Or, faites-moi signe.
Ah, bah,
Jean-Pierre Papin. C'est fait. Mais t'as fait signe.
T'étais
pas né, Jennings.
Non, mais je voulais dire, après Jean-Pierre Papin, je veux.
Paris Saint-Germain, par contre, va falloir chercher.
Ouais, cherche bien.
Ben voilà, grillé.
Comment ça?
Ça t'apprendra à vouloir l'ouvrir comme ça, là.
Il y avait des archives.
Patrick Sébastien, chat D. Ah, si tu pouvais fermer. C'est pas mal.
Non, donnons une bonne image des supporters. J'ai failli réussir à organiser un débat sur l'Association nationale des supporters qui essaye de bien présenter, de donner une bonne image des supporters partout en France.
Sauf que voilà, ils essayent et on n'arrive pas à les joindre. Donc.
C'est compliqué.
Un petit peu de pub.
On en a besoin.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? Dis-moi.
Ou du rugby.
Envoyez le rugby. Jean-Claude.
C'est parti?
Ouais.
C'est parti. Alors, on jouait la 12e journée de top 14. C'est des scores serrés sur les 7 matchs pour cette 12e journée. Avec 2 victoires à l'extérieur, le Racing qui est allé gagner à Castres par 14-9. Rien ne va plus au pays du pharmacien. Grenoble qui est venu gagner à Toulouse par 25-22 à la dernière minute par une pénalité de Vigneschi, le Gaillacois, qui a fait un peu de tort à son Midi-Pyrénées. Alors, au Toulouse, où tu es là? Et un nul, La Rochelle et Bayonne qui se sont séparés sur le score de 19-19. Lyon a battu Montpellier par 23-20 sur sa pelouse. Oyonnax a battu Bordeaux par 28-23 sur sa pelouse. Le Stade français a battu péniblement les Brivistes par 20-17. Le choc entre les Cadors, Toulon et Clermont au stade de Nice, c'est Toulon qui a gagné par 27-19, mais Clermont avait laissé 5 internationaux au repos, donc avait fait l'impasse sur ce match pour se concentrer sur la Coupe d'Europe. Au classement du top 14, on trouve en tête Toulon, Clermont et le Stade français. En fin de classement, Lyon, La Rochelle et Castres, alors que Toulouse pointe à la 7e place et pas qualifiable. Il y avait aussi de la Pro D2. On jouait la 13e journée de Pro D2. Donc, c'était le match de la peur pour Agen qui recevait sur sa pelouse une petite équipe de Dax. Et Agen a difficilement gagné par 22-17. Il y avait le derby des Qatars entre Béziers et Carcassonne. Béziers s'est imposé par 16-12. Perpignan a fait le match nul sur sa pelouse contre Aurillac par un temps pourri, il pleuvait, c'est la météo qui fait actuellement en midi dans les Pyrénées là-bas, par 15-15. Tarbes a battu Massy par 26-7. Colomiers s'est imposé sur sa pelouse difficilement contre Bourgoin-Jallieu par 21-17. Mont-de-Marsan a battu Albi, alors c'était le choc du deuxième contre le troisième, par 26-17. Et il y avait aussi un match à Sapia qui était le match attendu par tout le monde malgré la flotte. Montauban recevait Pau et Montauban s'est incliné par 22-24. Alors j'ai rencontré à la fin du match Pénalva, le deuxième ligne, et je lui ai posé une petite question.
Commencer par putain de poteau.
Ouais, ça fait deux poteaux. On n'a pas été concentré pendant 10 minutes où on se fait contrer. À la limite, le premier essai, bon, voilà, on savait que c'était une belle équipe. Le deuxième, bon, on s'est fait avoir un peu bêtement. Mais c'est dommage parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie. On les a mis à mal sur la première mi-temps, je pense, devant. Mais bon, l'état d'esprit a été bon. Moi, je retiens ça et on va encore faire des bons résultats et à Sapia et je pense à l'extérieur.
À quoi est dû le trou de la deuxième, du début de deuxième mi-temps?
Vous savez, c'est pour aussi. Il faut admettre que c'est une belle équipe. Il y a des joueurs d'expérience. Voilà, nous on a joué notre but aussi. On a réussi à se trouver sur nos points forts. On les a percés quelques fois aussi. Bon, ça s'est joué, vous voyez, deux poteaux. À ce niveau-là, le deux poteaux, un ballon contré, vous perdez le match.
Donc, le positif, c'est le point bonus.
Le point bonus, on revient, à la fin, on fait trois phases qui durent bien plus de deux minutes. Il faut pas lâcher. Quoi. On remercie les spectateurs, franchement, ils ont poussé jusqu'à la fin. Bien. C'est toujours sympa.
Félicitations quand même. Voilà. Allez, bon courage. Merci.
Ah, c'est sûr que la dernière action là qui a mené jusqu'à l'essai, elle était très très belle parce que pour une fois que j'étais au match, j'ai apprécié vraiment cette dernière action. Tu peux nous la raconter, celle qui mène vraiment les verts et noirs à poser le ballon dans l'embut.
Tu parles en première mi-temps, deuxième mi-temps.
Non, en deuxième mi-temps. Il y a une action qui est très très longue où on sent que les Palois sont fatigués à la fin, tu vois, et on passe.
Alors les Palois, ils étaient à 14. Il y a eu
des
larges là.
Ils étaient à 13.
C'est-à-dire qu'ils ont balayé le terrain des deux côtés, à droite et à gauche, et pour faire un écart sur l'aile et l'ailier de Montauban a pris le dernier défenseur de Biais, il a fait une feinte et puis il a été aplati dans l'embut, ce qui a donné de l'espoir au Montalbanais. Mais moi, ce que je retiendrai sur ce match, c'est la fameuse pénalité que tente Domenech de plus de 65 mètres. Allié, un coup de vent, paf, c'est le poteau qui la prend, autrement Montauban gagne ce match. C'est quand même pas de peau de perdre sur un coup de vent comme ça à la dernière minute, quoi.
C'est vrai, c'est sûr.
Et puis le tournant du match a été pour moi quand Montauban s'est retrouvé à 15 contre 13 de pas avoir su tuer le match comme on dit, c'est-à-dire ils ont marqué que 3 points pendant les 10 minutes où ils étaient en supériorité numérique. Alors que quand Montauban s'est retrouvé à 15 contre 14 suite à la sortie d'un Montalbanais, Pau a réussi à marquer 12 points, 2 essais puis voilà quoi. C'est tout. Et ça, c'est l'expérience qui va venir petit à petit.
Après, ils se distribuaient quelques calottes. Hein. Il y avait un peu de soupe de phalange de temps en temps. Hein.
Ah ouais, mais pour être pas loin du bord de la pelouse, je peux te dire que de temps en temps, c'était chaud. Puis les mecs se sont allumés. D'ailleurs, le match a bien commencé. T'as remarqué qu'à la première minute, il y en a deux qui se sont pris. Quoi.
Ouais, d'entrée de jeu. Bim, bam, allez. Bon, c'était un joli match, voilà.
Tu as trouvé ça joli, toi?
Ben moi je me suis très très franchement, je me suis plutôt ennuyé sur la première mi-temps, mais qui de l'avis des gens qui étaient avec moi et qui connaissent quelque chose en rugby disait que c'était une très belle mi-temps. Moi je me suis ennuyé, voilà, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Par contre sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé ça très chouette, oui.
Et je sais pas si tu as vu à quelle vitesse les Palois sont rentrés dans le match en deuxième mi-temps quand même, hein. Ils étaient en infériorité numérique puisqu'ils étaient que 13.
Ouais.
Et ils sont partis à fond. Et
moi, je sais pas s'il y avait un effet d'optique ou s'ils étaient tous plus grands d'une tête, hein, quand même. Hein. Ils sont costauds, hein, les Palois. Hein.
Oh, mais ça veut rien dire, ça.
Ouais.
Non, c'est que, disons qu'ils sont premiers du championnat, pas pour rien. D'ailleurs, je vais te donner le classement de la Pro D2.
Allez.
Deuxième Mont-de-Marsan, troisième Albi, et Montauban est huitième. Et en fin de classement, c'est Narbonne, Bourgoin et Dax. Voilà.
Il reste autre chose en rugby ou on passe à la suite?
Tout à l'heure en fédéral. À bientôt.
Pub.
CFM à Montauban. 101.2.
Pour Noël, CFM vous réchauffe et vous fait un beau cadeau. Gagnez votre poil, Richard Le Groff. Valeur 1500 euros. 1500 euros. Les Maîtres du Feu, partenaires de CFM Radio, vous font faire des économies.
Ouais, yes.
Première étape, répondez au quiz sur cfmradio.fr. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour vous inscrire. Puis, si vous êtes sélectionné, rendez-vous le 18 décembre à l'antenne.
Oh, c'est énorme !
CFM, c'est génial !
Au bureau, restaurant, brasserie, pub lounge à Montauban, c'est formule le midi à 9,50€ ou carte midi et soir pour une restauration traditionnelle à base de produits de qualité. Venez découvrir nos incontournables burgers et crocs ainsi que nos délicieuses grillades et n'hésitez pas à profiter d'un large choix de spécialités. Soirée à thème dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous allons vous donner envie d'aller au bureau. Ouvert 7 jours sur 7 de 10h30 à 2h. Au bureau, face Cap Cinéma à Montauban. Programmation sur aubureau-montauban.com.
2015 arrive à grands pas avec la nouvelle programmation des contes jeunes publics. Histoire, mélodie, mime et magie pour les enfants et les tout-petits. Les oreilles pleines de mots et de musique, les yeux s'agrandissent. Et selon les émotions, les expressions se façonnent. Une semaine par mois, les contes jeunes publics ouvrent les portes de l'imaginaire et invitent pour le premier semestre 2015 Corinne Richard, Alexia et Franck Laret, Sybille Bligny, la compagnie à cloche-pied et enfin Jean-Yves Pagès. Animation libre et gratuite proposée par le réseau des médiathèques intercommunales du Quercy-Caussadet.
Du 29 novembre au 4 janvier, la ville de Montauban fête Noël. Marché de Noël, patinoire et animation sur l'esplanade des fontaines. Espace enfant avec quad, jeux et maquillage sur la place nationale. Spectacle gratuit pour petits et grands. Le 20 décembre à Eurythmie, grand concert de blues and soul offert à tous les Montalbanais. Invitation à retirer à la mairie dans la limite des places disponibles. La ville de Montauban vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Retrouvez toutes les web TV et plus d'infos sur montauban.com. Montauban, le goût de l'avenir.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.
Alors notre invité dans un instant à qui on va donner la parole, c'est Eric Lissot, responsable U10, U11, Montauban Football Club, qui est parti remporter le tournoi Charles Romulus à Rodez ce week-end. David, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le tournoi Charles Romulus ?
Eh bien, c'est un tournoi de jeunes footballeurs qui concerne les 10-11 ans. Tournoi régional, interdépartemental, hein, puisque tu le disais, Montauban a participé et il a même remporté. Il y avait des clubs aveyronnais, évidemment, présents, de Rodez, mais d'un peu plus loin. Et puis, l'équipe phare, ce week-end ici à Rodez, c'était le TFC, les tout jeunes joueurs du centre de formation, même pas d'ailleurs centre de formation, l'école de foot de Toulouse, qui étaient présents et qui ne sont pas passés à travers cette équipe de Montauban. Ce tournoi de jeunes ici à Rodez, c'est une tradition, hein. C'était la 13e édition cette année, ça se passait pas en extérieur. Ça se passait au dojo et à l'amphithéâtre, des salles couvertes donc pour ces jeunes footballeurs de 10 à 11 ans. On va donc parler avec les vainqueurs du week-end, les Montalbanais qui sont venus gagner ici en Aveyron. Ça fait un malheur. Montauban qui vient s'imposer, une victoire en finale 1-0 hier face à Nocelles. Et on va saluer Eric Lissot qui est responsable des jeunes du Montauban Football Club. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Déjà bravo.
Ben merci beaucoup, C'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est aux jeunes du Montauban Football Club parce que c'est eux qui jouent et qui ont passé toutes ces étapes pour arriver en finale et gagner et remporter ce tournoi. Voilà, moi je suis que l'éducateur qui encadre ces jeunes et donc la victoire en revient pleinement, quoi.
Alors justement, est-ce que la victoire, c'est pour de si jeunes joueurs de football, hein, 10-11 ans, c'est le but ?
Pas forcément, mais. C'est toujours bien pour un jeune qui pratique une compétition de pouvoir aller jusqu'au bout. Après, de gagner, ben, c'est sûr, quand vous rentrez en finale, vous y allez pas pour perdre, hein. On est d'accord. Tous les jeunes qui font du sport essayent, et surtout les enfants essayent toujours de gagner. Ils jouent pas pour aller perdre une compétition. Mais pour nous, éducateurs, c'est forcément pas la priorité, quoi. La priorité étant la pratique du sport et de les occuper aussi de leur temps de libre.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter la section jeune du Montauban Football Club ? Il y a beaucoup de monde. Combien de licenciés ?
Alors donc oui, l'école de foot comporte en catégorie U13 5 équipes, à peu près 70 licenciés, la catégorie U11 76 joueurs, donc 5 équipes aussi. L'école de foot de U7 à U9, à peu près une centaine de licenciés. Voilà, c'est quand même un club qui vit bien au travers de son école de foot avec un certain nombre de licenciés. C'est quand même le premier club en nombre de licenciés de la région Midi-Pyrénées. parce qu'aujourd'hui on a passé la barre des 700 licenciés, donc c'est dire que c'est quand même un club qui attire du monde et qui occupe beaucoup de jeunes, quoi.
Voilà. Est-ce qu'il fournit ensuite les équipes adultes?
Il fournit les équipes adultes, oui, bien sûr, puisque nous avons aussi 4 équipes de seniors masculins, 2 équipes de seniors féminines, et puis notamment aussi la volonté de ce club de développer le foot féminin, puisqu'il a créé une section, enfin on va dire une école de foot uniquement féminine. Donc voilà, la volonté aussi, c'est de faire participer les filles. Aujourd'hui, l'équipe de France féminine brille, hein, donc il y a un engouement aussi pour ce sport de la part des féminines, et c'était une volonté de club d'y participer, quoi.
Et je crois que dans l'équipe, on en a un qui entraîne les filles du côté de Rodez, non, David Fabier?
Ouais, du côté de Rodez, du côté du Vibal, exactement.
Ouais.
Ça se passe bien d'ailleurs, David.
Ça se passe très bien, ouais. Franchement, on a fait un très bon début de saison, on a très belle recrue, et pour l'instant, tout va très bien, que ça continue.
Donc, c'est vraiment le sport féminin, c'est vraiment le truc qui a le vent en poupe. Comment s'est passé ce... D'abord, moi, j'aimerais que quelqu'un puisse me dire qui c'était ce Charles Romulus, là, hein, d'accord?
On va peut-être demander à Jean-Claude Vigroux, c'est notre bibliothèque.
Bien, Charles Romulus, c'est un jeune ruténois qui habite exactement au monastère et qui s'est tué dans un accident de moto il y a 4 ans maintenant. Et c'était un garçon qui était un fada de football. Il aimait ça, il aimait la vie, il aimait ses copains. Et
d'accord. Et
il
donc
nous a quittés il y a 4 ans.
On lui dédie donc ce tournoi chaque année. Comment ça s'est passé pour vous, Eric Lissot? Racontez-nous un petit peu la journée, comment c'était?
Ben écoutez, déjà on a commencé, on s'est levé bonheur parce qu'on est parti le matin même, donc on a levé les enfants à 5h et puis donc ça, c'est pour ça que c'est pour eux, c'est une victoire quand même qui compte beaucoup, sachant que bon, se levant à 5h, arrivant là-bas pour 8h45, pratiquer le sport toute la journée et puis arriver à gagner une telle compétition, évidemment que c'est une victoire qui compte, d'autant plus que l'année dernière, bien Montauban avait perdu en finale contre le TFC. Donc c'est pas vraiment une revanche, parce que bon, c'est la pratique du sport, on n'est pas ainsi faite, on se venge pas d'une équipe adverse, mais ça a quand même une saveur particulière de dire ben on a quand même battu ce club qui est représentatif dans la région, quoi. Voilà.
David?
Oui. Donc ce tournoi, c'était avec combien de matchs vous avez joué, comment ça s'est passé?
Donc on a fait 3 matchs le matin, 3 matchs l'après-midi, des matchs de poule le matin et les matchs quart, demi et finale l'après-midi. Voilà, c'était des matchs de 9 minutes, hein, donc sur l'amphithéâtre uniquement, parce qu'on a eu la chance de pouvoir jouer toute la journée sur l'amphithéâtre. C'est quand même, je dois dire, une structure qui est vraiment très plaisante, parce que on a bénéficié d'un site franchement qui est exceptionnel pour la pratique du futsal.
Voilà, on va passer le message, ils nous écoutent, ça va leur faire plaisir.
En tout cas, on peut leur dire merci et bravo, parce que c'était réussi. Cette manifestation était à mon goût très réussie, tant sur le point sportif que de l'organisation.
Les jeunes qui sont chez vous là, ils sont contents de gagner, mais vous les emmenez pas là que pour gagner, on a bien compris ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais sinon, dans leur état d'esprit, c'est quoi la plupart? C'est plutôt sport foot loisir, ou bien certains d'entre eux se voient bien quand même pouvoir pourquoi pas faire une carrière de sportif professionnel?
Ah ben c'est sûr que à cet âge-là, les enfants ont quand même des rêves, heureusement, et donc ils s'identifient assez souvent à des joueurs professionnels, et ils espèrent tous plus ou moins pouvoir accéder à l'élite, quoi. Mais bon, ça sera pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Mais pour eux, en tout cas, pour l'instant, c'est déjà de se retrouver ensemble, de pouvoir là partir, en l'occurrence hors département, ça tisse des liens entre eux, des liens d'amitié qui sont assez forts, et qui retrouveront certainement plus tard, quoi, dans la vie. Donc c'est surtout ça, en fait.
La suite, qu'est-ce que c'est? La suite, pour vous, le prochain match, prochain championnat,
Écoutez, la suite, c'est un prochain tournoi. La prochaine échéance pour nous, ça sera un tournoi en salle encore, ça sera le séquestre à Albi, qui est un tournoi aussi qui est quasiment incontournable quand on veut pratiquer le futsal, parce que c'est quand même le plateau national par excellence pour les U10 sur 11 en salle. parce qu'on y retrouve tous les clubs pro réunis en un seul site sur 2 jours. Et donc, quand on veut se frotter au meilleur, eh bien, il faut passer par là, quoi. Donc, pour
Eric,
la prochaine échéance. Oui.
Pardon. Non, la prochaine échéance, elle est terminée.
Oui, non, la prochaine échéance, c'est donc le tournoi en salle du séquestre au mois de février.
Et une petite question, Eric, on parlait juste avant votre intervention du Ballon d'Or 2015-2014, enfin le prochain. Les jeunes de 10 ans, là, c'est qui les footballeurs qui les font rêver? Ronaldo, Messi, Neuer ou un autre?
Ah oui, c'est sûr que aujourd'hui, Messi il fait toujours rêver quand même. Hein. C'est quand même un joueur d'exception. Ronaldo aussi. C'est les joueurs que vous avez cités font forcément partie des joueurs qu'ils aimeraient être. Ils aimeraient être à leur place un de ces jours. Quoi.
Jennings a une question aussi.
Oui, ce week-end, j'ai regardé une émission de foot et il y a eu une image qui est passée, un but d'un joueur montalbanais. Qui a fait le tour là, il a fait une bicyclette sur le côté de la surface, lucarne opposée, c'est de votre section?
C'est pas dans ma section, moi, c'est dans la section du foot à 11. Donc c'est pas forcément dans l'école de foot, c'est un tout petit peu au-dessus, voilà. Mais bon, c'est des ce genre d'acrobatie, on l'essaye et puis on la réussit pas toujours. Bon ben là, il a eu la chance de le faire et donc c'est bien quoi. Parce que ça fait parler de nous aussi. Donc ça, c'est très bien pour nous.
Mais il y a une jeune fille aussi d'Albi qui prétend aussi, qui est nominée pour être élue Ballon d'Or. C'est une joueuse de foot d'Albi d'origine irlandaise qui a marqué un but sensationnel après un jongle du pied droit. Elle s'est mis le ballon sur le pied gauche dans la lucarne et elle prétend au Ballon d'Or avec les Messi, les Ronaldo, les Neuer.
Jacques-Claude, c'est le challenge Puskás, tu sais, le plus beau but qui est marqué. Donc elle va se battre contre ce que tu dis là.
Oui, et je l'ai pris en interview
la dernière fois que je suis à la SPTT Albi, où elle s'appelle Stéphanie Roche, c'est une Irlandaise, elle a 19 ans.
C'est elle. Belle fille d'ailleurs.
Merci Eric Lisseau d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable des jeunes 10, 11 et 12 et 13 ans, non, hein, c'est ça, hein, au Montauban Football Club.
Oui, oui.
Voilà. Merci d'avoir été avec nous sur CFM Radio. À bientôt.
Merci beaucoup, bonsoir.
David Fabier, l'info en plus.
David Dumont plutôt.
Non, je voulais David Fabier, c'était exprès.
Ah,
mais...
ah bon, pardon.
Je vois où tu m'amènes. L'info en plus, c'est le bon anniversaire que je voulais souhaiter à René Malleville, qui a gentiment prêté de sa personne avec le t-shirt Sport on the Rock pour faire sa fameuse minute de René qui débriefe voilà, les
le
matchs.
Le mec qu'on avait eu à un moment au téléphone, là, qui a une grande gueule.
Oui, pour Paris-Marseille.
Voilà, monsieur René Malleville, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, je voulais en profiter pour lui souhaiter un très très bon anniversaire. Et encore le remercier d'avoir joué le jeu de faire sa minute avec le maillot de Sport on the Rock. Merci à lui. Et
d'ailleurs, est-ce qu'on pourra la voir pour le match retour de Marseille-Paris?
Qui, René?
Ouais.
Ah, il faut lui demander, ça sera avec plaisir.
Oui, comme on avait fait l'an dernier. Ouais.
Ça, il n'y a pas de souci. Je me poserai la question.
Et il reste du temps pour l'info en plus, David.
Il n'a pas fêté son anniversaire cette semaine, mais il a 62 ans. C'est Mickey Rourke. Vous en avez peut-être entendu parler, pas pour du cinéma, mais pour sa reprise des combats de boxe. Il était un peu boxeur à son époque, Mickey Rourke. Là, je sais pas ce qu'il a pris, mais il a eu envie de revenir. Il a remporté facilement un combat face à un boxeur professionnel, sauf qu'on a appris aujourd'hui que ce boxeur professionnel était plus à la rue qu'autre chose. C'était le perdant professionnel, en fait, celui qu'on prend toujours pour gagner en face.
C'est le plus de chimbol.
Et voilà, et donc le succès de Mickey Rourke, 62 ans ce week-end en boxe. Vous voyez des commentaires qui disent que même un enfant aurait évité ses coups. Voilà. Si vous avez vu ces images de Mickey Rourke, il n'est pas spécialement revenu en forme. Disons que c'était un combat arrangé comme on peut en voir en boxe ou dans d'autres sports.
C'était du cinéma.
Voilà.
C'était du cinéma. 18h. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de lundi sport.
CFM.
Il est 18h, il vous tarde de vous mettre au chaud? Trouvez la solution avec les Maîtres du Feu à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous et on commence par cette information. Un jogger qui s'est noyé dans le Tarn à Castelsarrasin. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 26 ans qui a chuté accidentellement dans le fleuve hier après-midi alors qu'il courait sur un chemin de halage. Les pompiers plongeurs ont réussi à le localiser et à remonter le corps de la victime sur les berges. Les médecins du SMUR de Moissac ont tenté de réanimer le jeune homme sans succès. Il est mort quelques heures après à l'hôpital de Montauban. Encore un drone à proximité de la centrale nucléaire de Golfe Fesch. Il a survolé le site du Tarn-et-Garonne à 25 km d'Agen ce matin vers 9h. L'engin a été pris en chasse par la gazelle du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, un régiment qui assure la surveillance aérienne du site 24 heures sur 24. L'engin télécommandé a été aperçu entre Valence d'Agen et Goudourville. Il n'a pas eu le temps d'aller vraiment au-dessus de la centrale nucléaire. Par deux fois déjà, en revanche, elle a été survolée par un drone ces dernières semaines. La région sera solidaire des départements de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées, est très clair. L'hôtel de région aidera les régions sinistrées à la suite des intempéries qui ont entraîné d'importants dommages dans ces trois départements. Le président de région indique donc qu'il débloquera des fonds spéciaux. Ce sera le même dispositif que celui qui avait déjà été mis en place en octobre 2012 et juin 2013, lorsque les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne avaient été frappées par des intempéries également. On parle sport en ce lundi avec le bilan du week-end. Il y avait de la Pro D2, Montauban qui a perdu contre Pau, Stade Sapiac. Le leader a marqué 2-1 pour les Montalbanais, un essai marqué par Ruel Gaillet. Score final donc pour ce match, 22-24. Montauban est 8e au classement ex aequo avec Biarritz, mais Biarritz n'a pas pu jouer ce week-end contre Narbonne. Le match a été annulé et reporté au prochain week-end à cause des intempéries justement. En football, la première division féminine a perdu 3-1 face au PSG, sans surprise dans ce match de gala à domicile. Et puis chez les hommes en CFA, match nul pour le RAF dans le groupe C. Les Ruthénois stoppent leur spirale négative avec un point pris sur la pelouse de Marignane hier, un partout. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée sur CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Lundi Sport, la suite. Dans cette prochaine demi-heure, on s'intéressera à une association qui s'appelle les Colosses au pied d'argile, association de prévention et de sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif. On va en parler avec son président, Sébastien Bouey. C'est lui qui a créé cette association. On l'aura au téléphone d'ici un petit quart d'heure. Avant cela, eh bien, Jean-Claude Desfarges pour le rugby. Et Jean-Claude Vigroux pour le football et tout le reste, hein, c'est ça. Et puis Jennings pour l'handisport. Je vais y arriver. On commence par qui?
Au rugby peut-être.
Allez.
Donc cette partie rugby, je vais la dédier à une nouvelle auditrice que l'on a. On appelle Maryse, la baronne d'Arnac, qui depuis que temps nous écoute.
Salut Maryse, la baronne d'Arnac.
Oh, Madame la baronne.
Madame la baronne.
Donc elle aime le rugby et puis elle m'a dit, moi je vous écoute tous les lundis. Donc voilà, Maryse, cette deuxième partie, c'est pour toi.
Spécial dédicace.
Donc fédéral un peu tronqué dans la poule 5 parce qu'il n'y a eu qu'un seul match, tous les autres ont été remis. Donc le Racing a perdu sur sa pelouse contre Balma, donc pas de classement. Le Racing a perdu 9-15. La poule 6 a été complète. De Casseville a battu Mazamet par 25-12. Sarlat a fait match nul avec Cahors par 28-28. Et Gaillac recevait sur sa pelouse Figeac. Alors je ne sais pas ce que les Figeacais avaient pris avant le début de ce match. Sous la flotte, ils ont pris une belle déculottée par 53-7 avec 8 essais. Ça a été quelque chose. Un gros match de rugby malgré la flotte. Et à la fin du match, j'étais voir l'homme du match, un jeune de 18 ans. Et voilà son avis.
Oui, alors je suis avec Dorian Gerbeau, troisième inel numéro 6 de Gaillac. Temps pourri, 8 essais, belle prestation.
Ouais, c'est vrai qu'au début on n'était pas parti sur un jeu comme ça, mais au final donc on a mis de l'engagement qu'il fallait, on a eu une bonne conquête en touche malgré quelques ballons qu'on a perdus, et on a su bien se reprendre et surtout pas baisser la tête en seconde mi-temps alors qu'on avait déjà le bonus offensif.
Donc vous avez fait un gros match sous la pluie quand même.
Voilà, ouais, on est très content. Ouais.
Le score 53-7.
Ouais, ça doit, c'est ça.
Y a pas photo.
Non, ouais, on est super content. Au moins on a validé ce qu'on avait, nos objectifs de gagner les trois matchs. Et au moins on peut partir. Enfin, on a une semaine de récup là où on n'a pas trop d'entraînement pour récupérer.
La deuxième place est confirmée.
C'est là.
Bravo.
Merci.
Voilà, donc au classement de cette poule, Lavor domine la poule 6. Lavor est premier, Gaillac est deuxième. Il y avait aussi quelques matchs en Fédéral 3. Le Lévesque du Ségala n'arrête pas de gagner. 31-0 contre Gourdon. Ça, c'est une piquette. Et Négropolis a été perdre à Montflanquin. Dans cette poule, Lévesque est premier. Négropolis est huitième. Voilà, Maryse, c'était pour toi.
Madame la baronne. Football, s'il vous plaît, Jean-Claude Vigroux.
Eh
bien, les Ruthénois ont fait presque le miracle, ont réussi le miracle à Marignane.
David, est-ce que tu peux monter le son, s'il te plaît, de Jean-Claude ? On ne l'entend plus, il disparaît au fond, là-bas.
Je me suis pas caché, je suis toujours là, mon ami.
Ah, voilà, ça va mieux.
C'est mieux.
C'est mieux.
Donc, les Ruthénois ont fait un petit miracle à Marignane en décollant bien sur la piste de cette équipe en faisant le match nul. Un but partout. Après la déconvenue le week-end dernier face à Béziers où les Ruthénois avaient perdu contre l'AS Béziers, à Rodez en plus. Eh bien, ils se sont bien ressaisis puisque Marignane est second. Le leader, c'est toujours Grenoble. Et les Ruthénois, quant à eux, se trouvent à la 13e place. Il va falloir confirmer ce bon résultat à l'extérieur puisque le prochain match, dans 15 jours, verra les Ruthénois accueillir Sète, le football club de Sète. Et là, il va falloir marquer des points pour faire plaisir enfin à leur public. Chez les filles et les filles du Rodez Aveyron Football recevaient un gros morceau puisque c'était le Paris Saint-Germain qui se rendait à Rodez, des Parisiennes qui ont atterri sur l'aéroport de Rodez-Marcillac. Donc on vient pas en bus ni en voiture particulière à Paris Saint-Germain. On a les moyens. Eh bien, les Ruthénois, eux, les Ruthénoises, eux, ont montré que c'était pas une équipe de brêle, comme on dit vulgairement, puisqu'elles ont perdu face au Paris Saint-Germain, mais par 3-1, c'est pas si mal. Il est vrai que les Ruthénoises, 15 jours avant, avaient pris 8-0 à Lyon. Donc le leader, c'est Lyon. Deuxième, le Paris Saint-Germain. Troisième, Juvisy. Et les Ruthénoises se cantonnent à la 7e place du classement. Elles ont 2 matchs qui vont venir là, qui contre des équipes beaucoup plus abordables. Elles vont jouer contre Soyo et Arras. Et là, les Ruthénoises, il faudra prendre des points.
Et ouais, en division, tu sais que c'est les 4 derniers qui descendent. Hein.
Oui, 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 mais enfin, elles sont pas dans les relégables, puisqu'elles sont 7e et il y a 12 équipes. Donc, il y a encore un peu de marge.
Ouais,
un tout petit peu.
Mais il faudra gagner ces 2 matchs pour laisser ces 2 équipes, Arras et Soyo, à distance.
Allez, rapidement, les résultats de division d'honneur. On a 2 matchs qui sont joués, Jean-Claude.
Et oui, puisque le match journée, le Château-Roche a été remis. Luc Laprimobe, sur son terrain, s'est bien ressaisi en battant Fonsorbe 2-1. Et Montauban s'est fait battre par Muret à Muret sur le score de 2-1. On est le Château est 9e, Montauban est 10e et Luc Primobe est 11e. Comme quoi,
c'est pas gagné.
On se suit bien.
On va enchaîner avec le handisport, sinon tiens, puisqu'il y a un petit gant, j'en profite.
Et voilà, vous demandiez où j'étais, hein.
Ben non,
j'étais
là,
mais je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose en Formule 1, en tennis.
Pas loin, Rémi, pas loin. Je vais réussir à placer Charlotte Berton, qui a été sacrée ce week-end championne de France des rallyes. C'est une Aveyronaise, hein, Charlotte Berton. Elle était d'ailleurs il y a un an avec nous sur cette antenne pour revenir sur son 3e titre dans ce même championnat des France des rallyes. On parle d'automobile. Bah, cette année, Charlotte a été sacrée pour la 4e fois. Ça s'est passé dans le Var ce week-end. Elle est très contente.
Allez, on passe directement à l'handisport.
Ok, et on commence par du rugby à 13 fauteuils. Hier, les Pandas ont joué leur second match du championnat, mais le premier à domicile, et ils ont explosé littéralement le club de Rouen par 92-5, et ouais. Avec 16 essais contre 1, match très sérieux de l'équipe, peu de fautes, et une défense en béton, puisque l'essai rouennais est arrivé à seulement 3 minutes de la fin. Et par exemple, à la mi-temps, il y avait 44-1 pour les Montalbanais. Et du coup, pour eux, ça leur fait deux victoires en 2 matchs. Après ça, elle a obtenu à Saint-Jory il y a 15 jours. Et donc, leur prochain match sera dans 15 jours à Cahors. En basket fauteuil, en National A, défaite de Toulouse. Mo, c'est le leader du championnat. Défaite donc 75-53. En National 2 pour le D régional, Toulouse, là par contre, s'est imposé à Pau 53-40. En tennis fauteuil, Nicolas Peffer, qui est le 7e joueur mondial français, est allé en finale du Master Simple de Londres. Malheureusement, il s'est incliné contre le japonais Shingo Kunieda, qui est lui numéro 1 mondial. En para taekwondo, voilà. Laure Anne Setor et Bopa Kong, qui sont français, ont remporté une médaille d'or et un titre de championne du monde. lors de la Coupe du Monde qui avait lieu en Antalya, en Turquie. Et puis, un dernier mot en foot pour les personnes amputées. En ce moment, au Mexique, il y a la Coupe du Monde. Et la France a bien débuté puisqu'elle a gagné son premier match. Victoire face à la Colombie 2-1. Et le second match ce soir, c'est contre le Salvador. Vous pouvez justement suivre leur match en direct en allant sur la page Facebook Équipe française de football amputé, et vous trouverez donc le lien sur ce site du site. Et puis une petite question là pour les pros là. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle un gars qui fait du taekwondo?
Ouais, moi oui.
Ah. Allez, vas-y.
Taekwondoiste.
Oh, joli.
Non, mais j'étais dans le milieu à une époque. Oh. J'étais champion de karaté.
Et t'es toujours dans le milieu.
Il était dans la mafia, David Dumont. Il a fréquenté des mecs, attention,
j'ai quelques amis que la blanche.
C'est ton pote. David Dumont, c'est ton pote. Tu cherches pas
d'un moyen. Méfiez-vous, je vous le dis. Méfiez-vous.
Il est à l'affiche dans la French.
C'est ça. Quelle boîte.
Les gars, j'ai quelques résultats que nous a transmis Denis Arcuzé. Il nous dit qu'il y a eu des bons résultats des athlètes du Tarn-et-Garonne au cross national de Carmaux. Il y avait 1600 participants et c'était hier, dimanche 30 novembre. Il y a eu 4 podiums individuels pour les Caussadés et deux victoires et un podium par équipe pour les athlètes de Montauban Athlétisme. Les mini-filles, il y a eu la première, c'est Clémence Talou en cross court senior masculin, c'est un doublé montalbanais avec Mohamed Seikou premier et Grégory Banat second. En junior masculin, seconde place pour Saïd Mamer. Cadet masculin, troisième place pour Hugo Topiak. Clémence Lalou, Mohamed Seikou, Saïd Mamer et Hugo Topiak l'avaient emporté au cross de Montauban il y a 8 jours. On en avait donc parlé. Ces podiums dans un contexte plus relevé confirment leur bonne forme. Par équipe, sur cross court, les seniors masculins de Montauban Athlétisme terminent une très belle troisième place. Mathilde Sagnès n'a pas couru à Carmo, étant de repos fédéral en prévision du championnat d'Europe de cross le 14 décembre prochain. Voilà, on note les belles 6e place de Maxime Marty, catégorie espoir, et 9e place de Cédric Vessière chez les vétérans. Par équipe, les seniors féminines de Caussade terminent 5e. C'est signé Denis Arcuzé. Voilà, le message est passé.
Hey, Prémi ?
Oui ?
Tu me permets une seconde, vu que tu parles de cross, je voudrais annoncer la sortie du calendrier Les Dieux du Trail. Donc Les Dieux du Trail, c'est ceux qui font du cross en montagne. Qu'il est sorti, il est en pleine édition à Saint-Antonin. Il sera disponible à partir de lundi prochain. Donc sur chaque page, il y a 15 personnes qui sont comme les dieux du stade au rugby.
À poil, quoi.
Ils sont petits nudés. Ah ouais. Donc je vous conseille d'aller l'acheter.
Ils ont du poil aux pattes ?
Ah ben tu verras.
Et je vais aller voir.
Tu y es pas, toi, dessus ? Moi, j'aimerais qu'il y ait, tu vois, le truc Jean-Claude... Le calendrier de Jean-Claude Défarge, moi, ça me plairait.
C'est vrai ?
Ah ouais.
Alors, d'accord. Et... pour 100 000 euros.
Oh, comme tu es vénal. Allez, la suite, juste après un petit peu de musique ou de pub, ce sera un sujet très sérieux, puisque nous allons avoir au téléphone le président de l'association Les Colosses au pied d'argile, Sébastien Boyer.
CFM à Moissac, 90.7.
En Tarn-et-Garonne, c'est naturel de partager un repas entre amis, des idées ou même sa voiture. Alors pourquoi ne pas partager la route ? Nous sommes tous, à un moment, un usager fragile de la route. Un usager sans protection. Et un jour, peut-être, une victime. En 2013, des piétons, des cyclistes ou des motards ont payé de leur vie l'inattention et le manque de partage. Si vous ajoutez l'absence de ceinture, l'alcool, les arbres et les murs, on sait tous ce que ça donne. En 2014, partagez la route. Sécurité routière. Tous responsables.
Tu as lu le programme de Lettres d'automne ?
Oui, c'est ce que je faisais en t'attendant. Tu connais Hubert Haddad, l'invité principal ?
Non, mais je suis sûr que ça va être encore une sacrée découverte.
Et puis dis donc, il ne va pas se sentir seul. 80 invités, écrivains et artistes.
Et pas beaucoup de temps pour visiter le coin. 150 rendez-vous, spectacles, rencontres, expositions, concerts.
J'ai même repéré un banquet lecture. Ça, c'est nouveau. Et des déjeuners en petit comité avec un écrivain.
Et comme chaque année, des animations dans Montauban. À la gare, à la poste, les phrases sur les vitrines, des soirées dans le département.
Oh, c'est magique !
Comme tu dis. Et c'est d'ailleurs le thème cette année. La condition magique.
Allez, on réserve.
Pour Noël, CFM vous réchauffe et vous fait un beau cadeau. Gagnez votre poêle Richard Le Groff. Valeur 1500 €.
1500 €.
Les maîtres du feu, partenaires de CFM Radio, vous font faire des économies.
Ouais, yes.
Première étape, répondez au quiz sur cfmradio.fr. vous avez jusqu'au 17 décembre pour vous inscrire.
Oh, c'est génial.
Puis, si vous êtes sélectionné, rendez-vous le 18 décembre à l'antenne.
Oh, c'est énorme.
CFM, c'est génial.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Alors, on va être un peu sérieux, si vous voulez bien, messieurs, puisque nous accueillons le président Sébastien Bouey, président de l'association Les Colosses au pied d'argile, association qui fait de la prévention, de la sensibilisation au risque pédophile en milieu sportif. Tout est parti de l'histoire très personnelle de Sébastien Bouey, qui a été victime d'actes pédophiles dans le milieu familial et qui ensuite a choisi, comme c'est un rugbyman, de faire de la prévention dans le milieu sportif. Il est avec nous par téléphone. Son association s'appelle Les Colosses au pied d'argile. Bonjour Sébastien Bouey.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour faire un petit éclairage sur votre association. Vous êtes basé dans le sud de la France, hein?
Oui, on est basé à Saint-Paul-et-Dax, à côté de Dax, dans les Landes.
D'accord. C'est doublement par votre expérience que vous avez créé cette association. La première, parce que vous avez été victime de violences sexuelles dans votre enfance. Et la deuxième, parce que vous êtes rugbyman et que vous avez pu être aussi témoin de choses qui ne sont pas tout à fait dans les normes, hein, dans certains clubs.
Oui, exactement. Oui. J'ai créé cet asso justement parce qu'en milieu sportif, déjà, il se faisait rien. Et quand j'allais voir mes petits cousins jouer, faire des tournois de rugby, je voyais encore des dirigeants se doucher avec les gamins. Et je pouvais pas l'accepter. Et du coup, j'ai créé cette association, Colosses au pied d'argile, qui fait, comme vous l'avez dit, la prévention et sensibilisation au risque de pédophilie en milieu sportif.
Et alors, comment ça passe par quoi, justement, cette prévention? Je sais qu'il y a une histoire de PAC que les associations sportives peuvent se procurer.
Tout à fait. Donc, en fait, on a créé une charte de bonne de conduite, on va dire, où on donne des règles à tous les bénévoles, bénévoles, entraîneurs et dirigeants qui s'occupent d'un club. Notamment par exemple dans le vestiaire, où interdiction de se doucher, interdiction de prendre des photos isolées avec un gamin, interdiction de s'isoler avec un gamin. Donc c'est on protège l'éducateur, mais aussi on protège l'enfant. L'éducateur, parce que des fois il peut se mettre dans des situations qui peuvent être mal interprétées, donc il peut se mettre en danger, et bon, j'ai beaucoup de cas comme ça. Et on protège l'enfant parce qu'on a créé un quiz aussi. Donc tout gamin qui de 5 à 15 ans qui pratique du sport avec un club qui s'est engagé avec nous reçoit un quiz à la fin de l'entraînement. C'est à ramener en famille, comme ça on amène le sujet tabou en famille. Et suite aux 13 réponses que va donner le gamin, les parents vont voir s'il est en danger ou s'il sait se protéger par rapport à ses prédateurs. Donc on fait un ensemble de... On protège donc les gamins, on protège l'éducateur et on protège aussi les clubs, parce que malheureusement, j'amène beaucoup de témoignages dans mes interventions pour leur prouver que le danger est partout.
D'accord. Donc tout ce travail-là, ça a été un long travail de réflexion que vous avez mené vous-même par votre expérience, mais aussi, je ne sais pas, avec des pédopsychiatres, avec les membres des clubs, les entraîneurs, les éducateurs, tout ça?
Tout à fait, oui. Mais en fait, je me suis entouré de professionnels parce que le sujet, bon, voilà, il est assez grave, on va dire, pour ne pas raconter trop de bêtises. Donc, j'ai 4 psychologues, j'ai la gendarmerie, la police, j'ai un avocat, j'ai une illustratrice qui s'occupe de la communication aussi, j'ai une webmaster. Et on a travaillé aussi avec des éducateurs du milieu rugbystique.
Comment sont accueillies vos idées dans les clubs sportifs? Parce qu'on peut imaginer que pour certains, il y a encore beaucoup de tabous, et pour d'autres, de gens qui se voilent la face aussi.
Ben, tout à fait. Au début, on faisait peur. On en disait, non, mais chez nous, par exemple, chez nous, il ne se passe rien à aller voir à côté. Mais maintenant, on est dans le sens inverse, où les gens... Au début, ils ont du mal à venir à la présentation, à la réunion, et après, en sortant, ils nous disent merci, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte du danger qui peut exister, quoi, malheureusement.
David Dumont.
Et alors, il y a cet aspect-là des choses, il y a, qui ne doit pas être la majorité des cas aussi, mais le côté un peu inverse, c'est-à-dire de personnes que l'on peut, des jeunes ou leurs parents peuvent soupçonner de pédophilie ou de choses qui aillent vers ça, alors que c'est simplement le formateur, l'éducateur qui était peut-être maladroit. Ça arrive beaucoup aussi, ça?
Ben, ça arrive, c'est pour ça que nous, on a créé des règles où l'éducateur ne s'isole jamais avec un gamin, hein, parce qu'il suffit que l'après-midi, j'ai le cas de cette petite fille qui faisait du judo, son entraîneur n'arrêtait pas de la gronder, elle se fait mal à la cheville sur le tatami, il l'amène dans le vestiaire pour lui passer de la bombe, enfin, lui soigner la cheville, et le soir, elle a dit à ses parents que l'entraîneur eh bien, lui avait touché les fesses et les seins. Après enquête, il s'est avéré que c'était pas vrai. Donc voilà, s'il n'avait pas été seul dans le vestiaire avec elle, eh bien, elle n'aurait pas pu dire ça. Donc voilà, on les protège de ce côté aussi.
D'accord, donc c'est toujours intéressant de toute manière pour les clubs, n'importe quel club, n'importe quel sport, d'avoir de mener à un moment une réflexion. Comment vous faites pour rentrer en contact avec eux? C'est eux qui viennent vous chercher? C'est eux qui vous faites un peu la tournée? Comment c'est?
Alors, au début, mais pour faire connaître l'assaut, on a fait du porte-à-porte, hein, on a fait un acte commercial, on va dire, même si on vend rien. Maintenant, on est dans le sens inverse où les parents même contactent l'association pour que le club s'engage avec nous, le club où leur gamin est inscrit. Après, bon, on a beaucoup de clubs maintenant qui nous sollicitent. Dernièrement, la semaine dernière, on a signé une convention avec la Fédération Française de Rugby, qui est la première fédération à s'engager avec nous. Donc on est pas mal présent maintenant dans les médias, donc voilà, ça se fait tout seul maintenant. On a même l'étranger la Suisse qui vient voir le projet parce qu'il trouve ça intéressant.
D'accord. Vous restez cantonné dans votre sud-ouest ou vous remontez parfois?
Non, j'ai eu la chance d'avoir un reportage sur TF1. Au mois de mars cette année, et c'était un dimanche soir, donc 1,5 million de téléspectateurs à Claire Chazal. Et je peux vous dire que voilà, le téléphone il a sonné de partout, dans tous les coins de la France, et donc on est amené à se promener un peu partout en France.
Et alors, ça se passe comment? C'est une réunion, vous avez un PowerPoint, vous expliquez ça aux dirigeants, aux éducateurs, comment ça marche?
Alors la présentation se fait, bon, des fois quand c'est loin, on le fait par téléphone, mais on les invite à aller sur notre site. Et ensuite, nous, on se déplace. Donc le matin, en général, on le fait le samedi. Le samedi matin, on fait la sensibilisation de tous les éducateurs, dirigeants, même les parents qui veulent assister sont les bienvenus. Et l'après-midi, je passe dans chaque équipe, parce que bon, j'adapte mon sujet, j'adapte
le discours aux personnes qui sont en face.
Par rapport aux gamins que j'ai en face, parce que je peux pas parler à des petits de 6 ans comme je parle à des petits de 13 ans ou 15 ans. Donc voilà, on fait comme ça en général. Et
donc souvent, il y a une partie de votre intervention qui va vers les éducateurs et une partie qui va vers les enfants, hein, c'est ça, hein?
Tout à fait, oui.
Et après, j'ai vu sur votre site internet, donc il y a effectivement une charte, tout ça, et il y a des panneaux, c'est-à-dire que si le club qui ensuite s'engage avec vous, quelque part, il signe comme un contrat moral, et il doit afficher tous les petits panneaux que vous lui fournissez dans le pack, c'est ça?
Tout à fait. Alors, la charte que signent les éducateurs, bon, elle est prévue pour les adultes, et on a créé une affiche qui est mise à hauteur d'enfant dans tous les vestiaires, qui est de façon plus ludique, ou par rapport au pictogramme, même si le petit ne sait pas très bien lire, mais il va comprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans le vestiaire.
Sébastien, une petite question. Là, on parle de sensibilisation, de prévention des risques pédophiles en milieu sportif. La pédophilie, on en entend dans d'autres milieux. Il y a le milieu scolaire, et il y a le milieu familial, ou au sens large. Quelle place a le milieu sportif, d'après ce que vous avez, sur l'ensemble? Mais est-ce qu'il y a une particularité aussi?
J'ai beaucoup de demandes pour l'éducation nationale, mais je me cantonne justement qu'à faire dans le milieu sportif, parce qu'il ne se fait rien. Et puis, un gamin, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, on a sensibilisé l'école de rugby de Tyros. Il y a un gamin qui est revenu avec le quiz à l'école, et du coup, ils ont fait un petit travail avec la classe. Il s'est avéré que dans la classe, voilà, il y avait une victime aussi. Donc, on se cantonne au sport, mais c'est vecteur de. Enfin, il y a beaucoup d'enfants, donc déjà, si on arrive à sensibiliser tous les clubs sportifs, ce sera énorme. L'année dernière, en 10 mois, on a sensibilisé 10 000 gamins. Cette année, il y a déjà 40 000 gamins avec la Fédération française qui vont être sensibilisés, et on part sur 60 000 gamins, quoi. Donc, on sait que en distribuant un quiz, ça va toucher beaucoup plus, ça va faire boule de neige, et on récolte malheureusement des victimes par ricochet, on va dire.
Voilà, il y a un numéro qui est le 07 50 85 47 10. Il y a un site internet, on tape dans Google Colosse aux pieds d'argile et puis on vous trouve très très facilement. On comprend très vite comment ça marche. Nous, on n'a pas eu de mal à vous trouver justement pour pouvoir vous donner la parole ce soir. Et on vous remercie beaucoup, Sébastien Bouet, pour tout ce que vous faites.
Oui. Je voulais juste rajouter un truc, c'est par exemple sur 100 amis que vous avez sur Facebook, il y a minimum 10 victimes d'agression sexuelle. Donc, c'est pour vous rendre compte de ces chiffres, parce que voilà, il y en a vraiment partout, les victimes ne parlent pas, donc beaucoup de victimes nous contactent par Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager l'association, vous libérerez sûrement des paroles.
Merci Sébastien Bouet, merci voilà. À vous.
Au revoir.
Jean-Claude, tu voulais dire quelque chose ou quoi? Jean-Claude.
Lequel?
Fais gaffe avec les blagues, hein.
Non, mais j'espère qu'il n'y avait pas de blague. Non, mais j'avais cru entendre qu'il y avait quelqu'un qui avait dit oh, qui demandait la parole. C'est pour ça que, comme je n'ai pas tout le monde encore en visioconférence pour pouvoir voir vos trombines.
Bientôt, hein, Rémi. Oui, peut-être pour Noël.
Bientôt. Peut-être pour Noël, nous aurons la télé. On sait jamais. Bon, il faudrait qu'on se bouge quand même. Hein. où est-ce qu'on en est, dites donc, il va falloir nous donner l'agenda, un peu l'agenda, ouais. Hein. Allez.
Il y a du foot très bientôt, David.
Ah ouais, ben dès demain soir, l'Olympique de Marseille sera la première journée, la 17e. L'Olympique de Marseille se déplacera du côté de Lorient, ce sera le match d'ouverture. On va noter également que mercredi, Lille recevra le Paris Saint-Germain. La dernière affiche de cette journée, ce sera Lyon face à Reims, et puis rebelote ce week-end. Hein. Ça sera donc l'affiche du week-end, ça sera Marseille-Metz. Ça, c'est rigolo.
Ouais, enfin, je sais pas si ça va être rigolo, mais bon. Le rugby, ça peut être sympa aussi ce week-end.
Ouais, ben il y a beaucoup qui rangent les marrons ce week-end parce que c'est la trêve en top 14, en Pro D2 et en fédéral. Donc uniquement de la Coupe d'Europe. Donc les marrons seront chauds au Munster car Clermont se déplace au Munster en Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain reçoit Glasgow. Leicester, une équipe anglaise, reçoit Toulon. Castres, qui essaye de se refaire la cerise, reçoit les London Wasps. Et Montpellier reçoit Baf. Baf, c'est quoi la piscine. En ce moment, ça tombe bien.
Ah, de quoi?
Bah, y a un jeu de mots à faire, mais ça me vient pas.
Non, moi non plus, là.
Pourquoi? Et moi, je vois de quoi il veut.
Bah, à Basse, dans la ville de Basse, il y a des bains chauds aussi, voilà.
Ah.
C'est ça?
C'est certainement pour ça.
Pour ça, Jean-Claude?
Et c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, en ce moment, avec la flotte qui tombe sur Montpellier, ça va être quelque chose. Une équipe montpelliéraine qui reçoit dans un terrain détrempé, une équipe qui fait des bains chauds, ça va être bien.
Et là, on voit que parmi nous, il y en a aucun qui a une bonne note en anglais au bac, quand il est allé au bac.
En handisport.
Ouais, samedi et dimanche prochain au gymnase René Piquemal de Colomiers, c'est en Haute-Garonne, a lieu le premier championnat de France de para-badminton. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, allez les voir.
Allez, d'accord, ça marche. Bon, les pandas, tout ça, ils jouent plus là, il n'y a pas de match.
Dans 15 jours contre Cahors.
D'accord, ça marche.
À Cahors.
Et ben voilà, on arrive au bout. Je vous souhaite de passer une agréable semaine à l'écoute de nos programmes et je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour une nouvelle édition de Lundi Sport.
Bonne soirée à tous,
cher ami.
Ça va pas bien. Ouais, bonne semaine. Salut les gars.
Ciao.
Vous retrouvez l'intégralité de cette émission podcast sur cfmradio.fr. On va jouer dans 5 minutes, Rémi.
Ouais, on va jouer dans 5 minutes. Si les autres sont encore en ligne, on leur dit de rester un petit peu en ligne hors antenne pour qu'on puisse se parler en cachette des auditeurs de ce
groupe. Merde,
on
va s'engueuler.
Non, pas du tout.
Et là, pourtant, ça se passait bien.
Et pour les auditeurs, on se donnera
des cadeaux de Noël.
Dans 5 minutes, à tout de suite.